Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Hola, hola, bienvenue sur Radio Canus si vous nous rejoignez. Peut-être que vous écoutiez juste avant Grain de Sable et vous êtes maintenant avec l'équipe du Canu Info du jeudi, c'est-à-dire avec Laurent au micro jaune et à la technique.
Bonsoir Delphine.
Je vais être obligée de me lever un moment parce que j'ai oublié de donner le petit déroulé de notre émission à Laurent. Vous savez, on a un petit papier sur lequel nous colorisons nos sujets pour arriver à nous savoir dans quel ordre on en est. Alors d'abord, je tiens à signaler que nos camarades et amis d'Acrimet 69 ne seront pas là avec nous ce soir. On vous avait annoncé ça la semaine dernière, mais nous allons les retrouver, il me semble, le 14 février, si j'ai bien noté correctement la date. En tout cas, on les embrasse bien fort. Alors ce soir avec Laurent, nous allons parler lyonnaiserie et la vie avec Wauquiez. C'est un peu des sujets qui vont l'un avec l'autre. C'est un peu une semi-vie locale, même si Wauquiez n'est pas que local. Quand même, il est un peu de chez nous.
Ouais, enfin, moi, on n'assume pas, mais ouais.
Ah ben non, on aimerait bien qu'il soit pas par ici, hein, mais voilà, on n'a pas bien le choix. Nous parlerons de la CGT condamnée, nous irons du côté des luttes avec la Massif et Arjovingin. On ira au Venezuela, nous y retournerons, ça sera Laurent pour cette semaine. Nous ferons un petit tour du côté des Irlandais, du côté d'Hébron, du côté de la Pologne, on parlera énergie et environnement pour terminer cette émission, mais tout de suite, des Lyonnaises.
Oui, je voulais commencer cette émission par parler un petit peu de notre magnifique ville dans laquelle nous nous épanouissons. Et je voulais commencer par un peu d'humour, puisque, alors c'est pas moi qui vais faire de l'humour, c'est monsieur Kimmerfeld. Vous savez, Kimmerfeld, c'est celui qui est patron de la métropole, si je me trompe pas.
Tu ne te trompes pas.
Et la semaine dernière, il a fait une espèce de candidature, une espèce de show pour dire qu'il était candidat à sa propre succession à la tête de la métropole de Lyon. Alors bien évidemment, c'était une sorte de petite pique à Gérard Collomb, tout ça dans la bataille d'ego, de pouvoir et de toutes ces choses nauséabondes que nous connaissons dans la démocratie représentative. En tout cas, ça n'a pas bien plu à Collomb et à ses amis. Et Kimmerfeld, qui a le courage d'une moule, a reculé et a dit « Ah non, mais attendez, j'ai pas trahi Gérard Collomb. » Il essaye de pas aller trop loin, de pas énerver trop l'empereur de Lyon, qui est Gérard Collomb. Non, j'ai rien contre Gérard Collomb. D'ailleurs, je me présente pas contre lui à la mairie de Lyon. De toute façon, on sait pas encore si Collomb il préfère la mairie ou la métropole. C'est pas très clair non plus. Donc voilà, il a été beaucoup moins courageux que ce qu'il avait laissé percevoir la semaine dernière, mais on s'y attendait, on n'attendait pas non plus un courage politique de la part de ce personnage installé par l'empereur Gérard Collomb. On rappelle que c'est lui qui décide de qui se présente où.
Alors, la difficulté que moi je rajouterais, c'est que il faut quand même qu'il gagne la métropole, même si Gérard il reste pour la mairie. Et donc peut-être qu'il va avoir besoin quand même des soutiens de Gérard pour avoir la métropole. Donc c'est peut-être quand même aussi une histoire de je te câline parce que je vais peut-être avoir quand même besoin de toi.
Voilà, dans cette ville lyonnaise phagocytée par des forces d'extrême droite, qui n'ont jamais été combattues par Gérard Collomb d'ailleurs, on peut le signaler, il y a eu des actions de police aujourd'hui et hier je crois. Non, c'est mardi. Mardi dans l'extrême droite de la région, et ça a tapé à Lyon puisque deux militants d'extrême droite de Lyon ont été mis en prison provisoirement et on aurait espéré plus, on espérerait plus peut-être. Donc des membres de génération identitaire, c'était pour rappeler la petite histoire. Il y en a un qui est très célèbre, puisqu'il faisait partie de ces petits fachos qui étaient allés fermer la frontière italienne. Vous savez, avec génération identitaire, ils avaient leur petite tenue là, et pas mal de gens avaient retrouvé sa photo puisqu'il était à l'époque un conseiller en assurance au Crédit Agricole. Du coup, sur le site du Crédit Agricole, il y avait sa belle photo et c'était sorti d'ailleurs depuis les plots Crédit Agricole. Donc lui, il fait partie des deux interpellés pour différentes actions illégales, si j'ai bien tout compris. Et puis, pour terminer dans cette intro lyonnaise en vrac, une action à noter de la part de l'Union des comités d'intérêt locaux, une action qui vous concerne toutes et tous. Il y a un recensement sur la place de la publicité dans l'espace public à Lyon. Donc c'est une espèce de sondage, et je sais pas, ils en feront peut-être rien, mais ça vaut le coup de se mobiliser si, comme Delphine et moi, vous êtes contre les publicités, l'envahissement publicitaire, toutes ces choses horribles, puisqu'on sait que Lyon va expérimenter bientôt des publicités, alors déjà des publicités lumineuses, des publicités motorisées, hein, on voit bien sur les trucs de bus, les petits moteurs qui font tourner et changer les affiches, entre autres. Lyon est un peu à la pointe du gaspillage énergétique dans l'affichage publicitaire et la destruction de notre environnement visuel. Et l'idée de cette consultation, c'est de voir un peu comment vous positionnez. Donc ça vaut le coup d'y aller. Toutes et tous, si vous êtes contre la pub, c'est le moment d'aller dire et remplir tous les trucs contre la pub. Voilà. Alors vous pouvez remplir pour la pub si vous êtes pour la pub, mais vous n'avez rien à faire à l'antenne à nous écouter si vous êtes pour la pub. C'est clair et net. Voilà. Alors pour y aller, ça s'appelle. Alors je vous donne l'adresse. C'est bit.ly/publyon. Donc ça fait bit.ly/publyon. Voilà, et ça durera tout le mois de février. Et moi, je l'ai fait tout à l'heure. J'étais contre tout. Alors, il y a des petits pièges, hein, des petites questions pièges. Ils vous mettent, est-ce que ça, c'est de la pub? Et vous avez le panneau d'affichage libre. Bon, bien sûr, il faut dire que c'est pas de la pub. Sinon, ça, par contre, ils l'enlèveront. Il y a deux trucs comme ça que j'ai trouvé. Les affichages sur lumineux, là, dans Lyon, qui expliquent, attention, il y a de la neige, attention, demain, il y a grève, attention, demain, il y a machin. Voilà, bon, bref, je vous incite à le faire si vous êtes lyonnais et lyonnaise et que vous voulez vous mobiliser pour, j'espère pas, et contre l'envahissement publicitaire.
Voilà, le pire, quand même, c'est les pubs dans le métro. Moi, je trouve que c'est celles-là, les pires, qui sont arrivées assez récemment. Hein. Finalement, on commence. J'arrive toujours pas à m'y faire, personnellement.
Aux écrans, là
Aux écrans. C'est-à-dire, là, on a de la vidéo. C'est absolument insupportable. Et en plus, il n'y a pas juste un écran dans une station. C'est qu'il se multiplie. C'est absolument infernal. Parce qu'en plus, on sait, hein, notre cerveau, à travers l'œil, est attiré, hein, par ce mouvement de vidéo. Et même moi, je me surprends à rester bloqué sur le truc. Alors ça veut dire que je pense que je sors du métro, personnellement, comme l'autre partie de mon cerveau se bat, je me souviens pas de ce que j'ai vu, mais n'empêche que je l'ai vu, cette publicité ou ces publicités. Alors ça va de tout, hein, ça va pour un film, pour tout en fait, il y a pour tout, je crois qu'il y a à peu près pour tout. Je crois que franchement c'est les pires en termes de pollution intellectuelle, de pollution environnementale, parce que c'est beaucoup d'électricité, de pollution capitaliste, enfin de tout, quoi.
Voilà. Alors ça concerne pas la pub dans le métro, malheureusement, ce sondage.
Ouais, mais ça, c'est quand même la pire, celle-là, pour moi aujourd'hui. Hein,
ouais. Pas pour moi, parce que je.
Ouais, parce que tu la vois moins que moi. Mais tu évites. Mais c'est quand même.
Ferme les yeux dans le
métro. Celle-là, elle est absolument horrible. Enfin bon, voilà. C'est à moi avec la vie avec Monsieur Wauquiez. Alors, il se passe plein de trucs toutes les semaines avec Wauquiez, en fait. Hein, il fait plein de petites choses, mais j'avais juste envie.
C'est un boss, Laurent, quand même.
Ouais, il n'y a pas à dire.
J'ai vu qu'il a plein de nouveaux amis.
Eh ben, c'est d'eux que je veux parler. Parce que j'ai attendu un petit peu. C'est François-Xavier Bellamy. J'ai attendu un petit peu, quand même. J'aurais pu en parler de la semaine dernière, en fait.
Donc, c'est le candidat officiel pour le parti Les Républicains, pour les Européennes.
C'est à la tête de liste. Précisément, c'est comme ça qu'on dit, paraît. François-Xavier, donc, de son petit nom Bellamy, de son nom de famille, a donc été choisi par Monsieur Wauquiez. Apparemment, c'était pas le choix de tout le monde au sein des Républicains, mais ça, ils se débrouillent, hein, c'est leur affaire, ils ont un chef, c'est lui qui décide. Et évidemment, on a beaucoup parlé de lui ces derniers jours parce que Monsieur Bellamy est assez proche de la Manif pour tous,
oui,
des conservateurs de droite.
Oui, c'est un militant d'extrême droite religieuse.
Ah bah tout à fait, tout à fait. Donc c'est un peu ce qui a fait critique chez les Républicains. Alors, à la fois parce qu'à LR, on se dit qu'il y en a qui l'aiment pas, parce qu'ils sont peut-être pas aussi conservateurs que ça. Et puis il y en a qui disent que peut-être que c'est pas la bonne personne pour représenter le parti au niveau des européennes. Vous voyez, un petit peu, donc il y a un chopement sur la question, mais M. Wauquiez a quand même réussi à l'imposer. Alors, c'est un gars extrêmement intéressant, qu'il va falloir suivre, hein, on en sait pas beaucoup pour l'instant sur lui. Il est assez jeune, c'est quelqu'un qui n'en veut et qui s'est déjà bien fait connaître effectivement dans les milieux religieux d'extrême droite. Pour l'instant, je vais pas plus en parler, c'est juste que c'est le nouvel ami de Monsieur Wauquiez, et donc Monsieur Wauquiez, grâce à François-Xavier, tente de vouloir gagner plein de places aux européennes. On sait pas bien encore comment. Il y a une stratégie certainement derrière, mais je ne l'ai pas encore saisie. Et puis l'autre ami de Monsieur Wauquiez, mais qui est bien dans la même lignée, c'est Monsieur Éric Zemmour, qui est le nouvel ami, l'homme fort de Monsieur Wauquiez. J'exagère en disant l'homme fort.
Du coup, en fait, là,
c'est le copain.
Wauquiez, ouais, voilà, et ils se sont rencontrés. Il y a eu un débat entre eux.
Ça s'appelle le rendez-vous des idées. En fait, c'est un rendez-vous proposé par les Républicains. C'était mercredi, hier. C'est à Paris, dans le 15e arrondissement. Et donc, Monsieur Zemmour était invité à venir causer devant, en fait, tout un tas de personnes. Pour vous dire, ils étaient plus de 700.
Ouais.
C'est beaucoup,
oui.
Quand même, hein, il faut le dire. Et ben, il faut savoir que Monsieur Wauquiez a expliqué que donc Éric était ici, chez lui. Je cite ce que les médias ont rapporté, comme l'AFP. Ça a été dit dès le départ. Donc, Monsieur Wauquiez a bien placé Monsieur Zemmour à l'aise pour ce débat. Monsieur Zemmour, on va même pas parler du débat du contenu, parce qu'en fait, il a été tout à fait égal à lui-même, hein, dans le contenu de ses sorties. Et finalement, on s'en fout, parce que c'est toujours la même chose, hein, ce qu'il raconte. En même temps, on est tous envahis, machin, machin, il faut être patriote. Et la France, c'est sa belle civilisation, puis les autres, c'est tous à jeter. Ce qui est intéressant, c'est que Monsieur Wauquiez a fait vraiment le déplacement pour accueillir et accompagner Monsieur Zemmour, ce que Monsieur Wauquiez ne faisait pas forcément sur ces rendez-vous des idées, ce moment où donc des personnalités viennent parler devant des personnes LR. Là, ça veut dire que vraiment, il appuie à la fois avec Monsieur Bellamy et Monsieur Zemmour sur quelque chose de très simple. C'est on est à l'extrême droite conservatrice. Et en plus un peu religieuse et nationaliste.
Voilà. Mais du coup, ça fait un parti d'extrême droite de plus. On a déjà l'UPR d'Asselineau, on a le Rassemblement National de l'héritière Le Pen. Maintenant, on a LR de Monsieur Wauquiez. On en a quelques autres, hein, qui traînent comme ça. On a le Debout la France. Du coup, on a pléthore de partis d'extrême droite aujourd'hui.
En tout cas, conservateurs, tout à fait, et religieux. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce qui a fait aussi un petit peu râler chez les Républicains, c'est chez Monsieur Bellamy, c'est que quand Monsieur Wauquiez avait choisi François-Xavier, Monsieur Bellamy n'était pas adhérent chez les Républicains.
Ah oui, il allait chercher carrément à l'extérieur.
Ah ben là, il a adhéré là. Là, tout de suite, là. Voilà, cette semaine. C'est-à-dire qu'avant ça, alors qu'on savait que François-Xavier Bellamy allait être tête de liste aux européennes, et qu'il allait faire campagne, hein, pour les Républicains aux européennes, et ben il n'était même pas adhérent au parti Les Républicains. Ça, c'est ce qui s'appelle quand même un truc absolument incroyable, et c'est ce qui a fait aussi beaucoup râler en interne chez Les Républicains, parce qu'apparemment, il y a des fois, il y en a même chez Les Républicains, ils parlent de démocratie.
Non.
Interne.
Attends, mais avant, il n'y avait même pas d'élection chez Les Républicains.
Eh ben, alors depuis, j'ai l'histoire avec Fillon et tout ça, enfin bon. Voilà. Et en tout cas, ça, c'est quand même un truc, c'est que, bon, il a été un peu forcé, parce qu'apparemment, François-Xavier Bellamy, il n'avait pas trop l'intention de payer sa petite cotise. Voilà. Alors peut-être que d'ailleurs Monsieur Wauquiez lui a offert, hein, peut-être qu'il a d'ailleurs, mais en cachette, parce que vous savez, il y a des fois dans des endroits, je ne sais pas comment c'est chez les Républicains, mais vous ne pouvez pas payer la cotisation des autres. Voilà.
Ah, c'est d'accord. Alors,
c'était tout.
Oui, c'était tout. Je poursuis avec une info très très brève et une mauvaise nouvelle au sujet de la guerre syndicale entre les salariés et le patronat. C'était au sujet des femmes de chambre, hein, du palace qui s'appelle le Parc Hayat à Paris. Elles ont gagné, hein, finalement. Enfin, elles ont gagné. Il y a eu une négociation et elles ont obtenu plein de choses, ces femmes de chambre, durant la grève. Par contre, là, c'est une décision de justice qui va contre, non pas ce qu'elles ont gagné, mais contre l'action syndicale en tant que telle, puisque la Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du tribunal de grande instance qui condamne la CGT HPE, donc du Palace, dans le cadre de la longue grève qui a touché cet hôtel. La Cour juge, je cite, « illicite les actions revendicatives menées au sein du Palace pendant les 87 jours de conflit, conclut à un comportement abusif des représentants élus du personnel et retient l'argument de la direction, c'est-à-dire d'une atteinte évidente à l'image de l'hôtel à l'égard de la clientèle. » Donc les juges confirment l'interdiction faite aux grévistes, notamment d'utiliser des instruments sonores sur la voie publique en deçà d'un périmètre de 200 mètres autour de l'hôtel, et considèrent comme légal l'appel aux forces de l'ordre qui avait été demandé et finalement obtenu par l'hôtel contre ces travailleurs syndiqués en grève et travailleuses en grève contre leur patron exploiteur. Les femmes de chambre avaient été délogées d'ailleurs du trottoir à l'entrée de l'hôtel par des flics manu militari. En conclusion, la cour d'appel a condamné donc la CGT-HPE à verser une indemnité, c'est la honte, de 1500 euros à l'hôtel pour les riches pour les frais de procédure. Bon voilà, c'était juste pour dire que c'est dommage. La lutte a quand même, ça remet pas en cause qu'elles ont gagné, etc. Ça remet en cause la manière de se comporter dans une lutte. Ce qui est dommage, ça veut dire que quand on porte atteinte à son entreprise, c'est pas autorisé. Ben ouais, mais bon, exploiter les gens, c'est peut-être pas terrible non plus. Enfin voilà, il y a, c'est une triste nouvelle de la justice qui, a un peu porté la parole du patronat. On peut le dire.
Alors on va continuer avec les luttes et on va parler de la Massif. Vous avez peut-être lu Canard Enchaîné qui nous a appris que le conseil d'administration avait voté en décembre dernier une revalorisation de l'indemnisation annuelle de monsieur le président Alain Montaran de 62%. 62,5% pour être tout à fait exact.
Et c'est pas mal comme augmentation.
Alors c'est pas mal, mais alors ça porte tout ça à 260 000 euros, hein, cette indemnisation annuelle.
Tu veux dire qu'il n'était déjà pas sous-payé ?
Non, alors il y a eu un communiqué, moi j'ai retenu quelques explications. Il paraît qu'il y a plusieurs facteurs, je cite. Hein. Alors, le premier facteur que j'y lis, moi, c'est qu'il y a un comparatif des rémunérations des dirigeants des groupes mutualistes. Donc globalement, ce que j'en lis, c'est qu'en fait, M. Montaran, par rapport aux autres, était sous-payé.
Ah, quand même, si, si. Ouais. Pas par rapport aux salariés de la Massif.
Ah non.
Ah bah non.
Bah non. Alors, j'y ai lu aussi un autre facteur, c'est qu'il y avait une dynamique positive de développement.
Je crois que ça galère un peu la Massif, plutôt.
Alors, ça va pas si mal, mais ça. Enfin, c'est pas si simple que ça.
Ils ont triché, ils ont vendu des actifs pour faire rentrer de l'argent, du cash dans les caisses pour que ça fasse positif.
Mais.
Si j'ai bien compris.
Voilà, mais il y a du positif, hein, quand même, hein, voilà. Et puis, il y a. Ils ont beaucoup quand même, il faut le dire, c'est un des premiers assureurs de France. Hein, donc,
un groupe mutualiste, donc soi-disant de l'économie sociale et solidaire, tout ça là.
Voilà. Si ça se trouve, vous êtes plein hein, d'ailleurs hein, à être. D'ailleurs. Alors ensuite, il paraît qu'il y a un autre facteur, c'est qu'il y a un élargissement de ses responsabilités. Ce qui explique donc une partie des 62,5% de revalorisation de son indemnisation annuelle. Donc tout ça c'est chouette. Alors évidemment ça a un peu agacé les syndicats qui tous ensemble CGT, CFDT, FO, FCGC ont appelé lundi ce lundi qui vient d'arriver là
à la grève.
Et donc je vous rappelle que en France la région des assurances et des mutuelles c'est Niort.
Ah oui, c'est vrai.
Et oui. Et historiquement, c'est comme ça. Et même encore aujourd'hui, un certain nombre de ces assurances et mutuelles ont leur siège social sur Niort. Alors, donc, il y a une délégation qui a quand même été reçue. Bon. Voilà. Alors là-bas, sur place, il y avait 700 personnes apparemment qui se sont mobilisées entre 10h et 12h. Globalement, il y avait 1700 personnes qui ont été comptées comme étant grévistes. Alors, il paraît que pour la direction, c'est pas beaucoup parce que ça représentait que 17%, un truc comme ça, de la masse salariale. Donc, en fait, que tout a continué à tourner et que finalement, personne n'a rien vu. Vous savez, comme M. Sarkozy le disait. Les gens, ils font grève et de toute façon, on voit rien. Alors, bon... Ça fâche quand même un peu tout le monde parce qu'il faut savoir que là, en ce moment, il y a des négociations salariales. Alors, la CGT, par exemple, réclame à peu près 8% d'augmentation parce que la CGT estime qu'il y a des retards accumulés.
Moi, je trouve qu'ils sont petits bras. Moi, j'aurais demandé 62,5% d'augmentation.
Oui, mais en fait, du côté...
des questions d'égalité.
Du patronat de la Massif, on a une autre proposition.
0,2%. Ah, ils sont pires que moi. J'aurais pas été un bon patron, j'aurais été trop généreux, moi, en patron.
Et on se demande pourquoi, évidemment, il n'y a pas plus de salariés agacés et en grève, ça, évidemment. Tous les syndicats hein, disent que, de toute façon, il y a des sous-effectifs, qu'il y a beaucoup de changements aussi dans la gestion cette entreprise, qu'il y a des augmentations du ils ont des augmentations aussi de temps de travail, enfin d'activité, si vous voulez. Donc c'est-à-dire que quand M. Montaran a une augmentation parce qu'il y a un élargissement de ses responsabilités, a priori ça concerne un peu tout le monde. Vous voyez, simplement on place pas le mot responsabilité de la même manière quand c'est un chef et quand c'est pas un chef. Donc les gens aimeraient bien qu'en fait l'économie sociale, ça se vive ensemble. Vous voyez, c'est-à-dire que ça soit partagé, hein, tu le disais, hein, que ça soit vraiment pour tous et toutes au sein de l'entreprise, et que les sociétaires aussi s'y retrouvent. Et donc, il y a un appel aussi aux sociétaires à se mobiliser, à écrire, envoyer des mails, je sais pas, moi, faire grève devant votre porte, j'en sais rien. Mais en tout cas, à accompagner les salariés, parce que c'est justement une économie particulière, la Massif. En tout cas, c'est les valeurs qui sont portées dans leur bulletin, dans leur publicité, et que donc, il faut qu'il y ait une réaction. Et d'ailleurs, il paraît que il n'y avait pas longtemps, il était dit par le directeur général, on ne choisit pas l'économie sociale pour s'enrichir.
Ah bah.
Il semblerait que du côté du patronat, ouais, ça ne marche pas comme ça.
À 200 000 euros de salaire, on s'enrichit quand même.
Par contre, on comprend mieux maintenant le 0% de proposition, ouais, aux salariés. Allez, je vais parler d'une autre lutte. Je vais vous parler d'une lutte Arjo-Vigin. Vous savez peut-être que c'est la boîte qui fait aujourd'hui les papiers pour les voitures, les cartes.
Quels papiers ? Les cartes grises.
Les cartes grises, merci. J'avais perdu le mot gris. Donc, on sait qu'il y a un redressement judiciaire depuis le 8 janvier derrière. On cherche un repreneur, hein, sur les sites. Là, les dossiers pour reprendre Arjo-Vigin sont à remettre jusqu'au lundi 4 février. C'est le tribunal de commerce de Nanterre qui va étudier les dossiers le 27 février, donc il va falloir attendre un petit peu pour savoir ce qui va se passer. Et il y a des sites, hein, qui sont visés, c'est ceux de la Sarthe, les usines de Bessé-sur-Braye et de Sainte-Marne-la-Brière, et puis il y a une autre usine, celle de Seine-et-Marne, qui a été placé en liquidation judiciaire. Et alors là-bas, ça s'agace un tantinet, puisqu'il y a 240 emplois qui vont simplement s'arrêter. Donc c'est-à-dire qu'il y a 240 personnes qui vont rentrer chez eux. Il faut savoir que là-bas, c'est quand même une petite ville, hein, il y a 27 000 habitants. Donc quand il y a 240 000 personnes qui sont à la rue, ça touche quand même 240 foyers. Donc c'est important. Alors c'est en plus, Arjo-Vigin, là où les syndicats s'énervent, c'est qu'ils sont un peu un monopole, hein, sur cette carte grise, donc ils ont des commandes, donc on voit pas bien pourquoi ça se passe mal. Alors ce qui est un petit peu accusé ces derniers temps, c'est qu'il y a eu plusieurs repreneurs, mais les derniers repreneurs, parce que ça a été vendu, alors attendez que je retrouve à qui ça a été vendu, ça a été vendu d'abord, alors attendez parce que mon papier est pas bien fait aujourd'hui, ça a été vendu deux fois, et les derniers en fait ont, donc je retrouverai pas le nom, mais c'est pas très grave dans mon papier, ont en fait dépouillé l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils ont vendu des brevets. Par exemple, alors ils font pas que ça, ils font pas que des cartes grises, hein. Vous allez le retrouver dans la production d'autres choses. Par exemple, moi j'ai été sur leur site, ils font des étiquettes pour des bouteilles de champagne ou de vin, des choses comme ça. Donc ils font plein d'autres choses, hein. Mais là c'est assez spécifique quand même sur les histoires de cartes grises. Et donc ils avaient des brevets de la technologie, hein, sur quand même le papier et tout ça qu'ils ont vendu. Et puis il y a des filiales aussi qui ont été vendues. Donc en fait, là ce qui est accusé, c'est que les différents repreneurs ont vendu très très vite et que les dernières en date, ben, ont un peu liquidé l'affaire finalement se débarrassant d'une partie du bébé. Alors là-bas, en Seine-et-Marne, ça s'agace, je vous le disais, puisqu'on sait que le 16 janvier dernier, ça a été donc placé en liquidation judiciaire. Là, ça va fermer le 30 janvier. Et ils ont annoncé là-bas les salariés et les grévistes, parce qu'ils occupent l'usine, hein, là-bas, depuis le 16 janvier, qu'ils allaient brûler les bobines pour faire les cartes grises. Et en fait, très sincèrement, si aujourd'hui on en parle tous, et même d'une manière, même moi finalement, je me mets dans le lot, bon, c'est peut-être un peu différent pour ma part, mais c'est vrai qu'il faut bien dire, par exemple, quand les Échos en parlent, c'est pourquoi ? C'est parce qu'il pourrait y avoir une pénurie de cartes grises.
Et c'est grave ? Ah oui, pour les automobilistes.
Eh ben ouais, c'est grave. Ouais. C'est grave parce que, alors, il paraît qu'ils auraient commencé à brûler un certain nombre, yes, de bobines. J'ai pas vu, hein, moi, les images de tout ça. Ils en ont beaucoup, des bobines. Donc, ils ont apparemment, d'après les syndicats, je cite, il y aurait l'équivalent d'un an de commande. Donc, ils seraient prêts à tout cramer. Pour dire, ben, personne nous écoute, ben, personne n'aura de carte grise. Voilà, après tout, c'est pas si grave. Alors, il y en avait d'autres, a priori, là-bas, qui sinon voulaient jeter du colorant sur le papier, parce que comme ça, il allait être aussi inutilisable. Et c'est vrai que c'est moins dangereux que de foutre le feu, moi, je trouve, personnellement, parce que c'est une usine dans laquelle il y a un certain nombre de produits chimiques. Donc, quant à faire, autant pas se cramer soi-même, vous voyez, faut se protéger quand on fait aussi des actions du sabotage. Donc, ce qui est assez dingue, hein, c'est que là-bas, sur cette usine de Seine-et-Marne, c'est des générations. Je vous disais, c'est un petit bled. Bon, vous allez me dire 27 000, c'est pas si petit, mais quand même, ça veut dire que c'est des familles et des générations qui se sont succédées dans cette usine. Donc, il y a une solidarité assez importante hein, qui se met en place. Donc, on sait que maintenant, là-bas, si ça ferme, parce qu'il y a les autres sites à citer, à sauver, excusez-moi, mais si là-bas ça ferme, ils aimeraient au moins tous et toutes partir avec eux, un peu du pognon dans la poche, et pas juste qu'on leur dise merci bien, cassez-vous. Oui, alors là, le dernier qui avait en date l'entreprise, je viens de retrouver sur mon papier, ça s'appelait Blue Motion Technology Holding. C'est un fonds d'investissement suisse. Vous comprenez mieux pourquoi tout ça a été découpé. Alors, ils ont fait appel, sinon je trouvais que c'était chouette, à des auteurs de BD pour essayer d'avoir un espèce de recueil qui pourrait être vendu, en tout cas amener du soutien. Mais surtout, l'idée, c'était d'utiliser les papiers qu'ils ont dans cette usine pour que des auteurs de BD les accompagnent et qu'il y ait une exposition sur place, que du coup, la solidarité, que ça fasse du bruit et que, vous voyez, ils soient accompagnés. Donc, il va y avoir le 3 février prochain une exposition sous les bulles Nos Papiers, hein, qui est organisée à Bessé sur Bray, pour sauver les autres sites, hein, pour aussi amener quand même une solidarité entre tous et toutes. Alors ils ont fait appel aussi à des libraires hein, sur place qui ont tenté de les aider. Il y a par exemple la librairie Bulle au Mans qui a prêté son carnet d'adresses pour essayer de contacter des gens, de faire en sorte que y ait des dessins qui puissent être amenés, qui puissent être fournis, un petit peu exprès pour cette chose-là. Je vais pas vous donner de nom parce que je suis pas sûre que tous les noms que je pourrais vous donner soient vraiment vrais, mais sinon, pour ceux que dans la presse locale on cite par exemple Pierre Macchio, moi je me souviens avoir Louis Carr et puis là il y avait sinon il est connu pour avoir écrit la balade du bout du monde, Étienne Leroux avec Amenophis 4 par exemple. Alors c'est pas des noms machin que là hein, qui sont évidemment dans les grandes, il y en a qui sont GDL quand même hein, produisent un petit peu. Il y a Ronan Toulbaut qui avait fait les blocs 109 par exemple, enfin voilà. Donc ils ont un petit peu du soutien qui est un petit peu, c'est pas grandiose, mais quand même ils se sont démenés pour avoir des gens autour d'eux, c'est quand même ça qui est assez chouette et donc il y a de la mobilisation. Voilà, on espère que quand même ils arriveront un petit peu à pas se cramer le bout des doigts.
Eh ben, on va
parler Venezuela, non?
Bah oui, on va aller à l'international. Alors, donc Venezuela.
Si j'ai tout compris,
bon, on en a pas trop parlé dans cette émission parce qu'on n'est pas
parti. Peu la semaine dernière.
Ouais, mais grosso modo, depuis, enfin, il y a eu plein d'histoires du Venezuela depuis Chavez. On n'en a pas parlé souvent parce que d'abord, on détestait Chavez. On n'aime pas les militaires, hein, globalement, au Canu Info du jeudi. On est plutôt antimilitariste. Du coup, on ne va pas soutenir et dire du bien d'un militaire qui était Chavez. Et puis là, on avait laissé un peu courir les choses pour ne pas dire trop de bêtises. En tout cas, là, on va pouvoir s'exprimer puisque maintenant, on a quand même beaucoup d'infos.
Oui, parce que la semaine dernière, c'était surtout un moyen pour moi de taper sur la France insoumise.
Oui.
Très clairement.
Alors, qui sont toujours officiellement ridicules parce que tous les militants de la France insoumise ne défendent pas la vision du leader autoproclamé, là.
Oui.
Hein, Mélenchon. Donc, là aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, on rappelle quand même. On pensait que le Venezuela avait touché le fond, en fait. Et en fait, le mercredi 23 janvier, avec cette autoproclamation de Juan Guaido, ils sont allés encore plus loin dans la descente aux enfers, si on peut s'exprimer comme ça, lorsqu'il s'est autoproclamé président de la République par intérim. Donc, il y a eu... Alors, on rappelle, hein, il est élu, mais pas en tant que président, hein, en tant que élu à l'Assemblée nationale du Venezuela. Donc, il n'a pas de légitimité, du coup, à se présenter comme président de la République. Donc, ça a pris tout le monde de court, hein, parce qu'on ne s'y attendait pas ce qu'il fasse ça. Ça a fait réagir très vite les partisans de la droite mondiale, puisqu'on a Trump qui s'est jeté dessus, on a tous les présidents de droite d'Amérique du Sud qui sont jetés dessus, etc. Ailleurs, c'était un petit peu plus cool. Hein, tout le monde s'est dit, on va attendre de voir ce qui se passe, parce qu'il n'est pas assez connu pour savoir si c'est la droite dure, s'il est manipulé par Trump, etc. Donc tout le monde a attendu un petit peu, et petit à petit, presque tout le monde le soutient, ce président illégitime qui s'autoproclame président. Hein, on a eu le Canada, l'Australie, Israël, qui s'est rajouté, et aujourd'hui s'est rajouté le Parlement européen. Donc tous les pays sont arrivés à trouver un compromis, et qui reconnaissent, donc le Parlement européen reconnaît l'opposant comme président par intérim légitime de son pays. Ça a été voté donc à Bruxelles aujourd'hui. Assez surprenant quand même d'aller jusque-là, puisque reconnaître que Juan Guaido est légitime comme président, je ne trouve pas de sens à tout ça, puisqu'il n'a pas été élu comme président. Donc voilà, tout le monde est coincé. De toute façon, Maduro, il a tellement de gens contre lui, il est tellement autoritaire. On rappelle quand même que Maduro, il est le fils spirituel de l'autoritaire et du militaire Chavez. Il est au pouvoir, il a fait s'écrouler le Venezuela. Alors certes, contre lui, il a la droite, le capitalisme, etc. Mais tout ça n'excuse pas son comportement autoritaire. On rappelle que l'armée est au pouvoir, parce qu'en fait, l'armée a plusieurs ministères, qu'il est très proche de l'armée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est encore là, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment un dirigeant de gauche autoritaire, un peu à l'ancienne, comme on a eu Staline et tous ces gens comme ça.
De gauche, ils ne sauvent pas le Venezuela, les gens, ils crèvent de faim, ils sont obligés de se barrer. Donc, je ne vois pas bien, moi, en quoi il est de gauche, par exemple. Tu vois, j'ai du mal avec cette idée-là, quoi.
Oui, mais bon, officiellement, il dit de gauche.
Parce que, son peuple crève de faim, si je peux le dire de cette manière.
Mais bon, l'excuse qu'il a, on rappelle, c'est de dire si tout se passe mal, c'est parce qu'en face, les capitalistes ne jouent pas le jeu, ils sont contre moi. Il a raison, ceci dit, que les capitalistes sont contre lui. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, bref, en fait, la conclusion, c'est que le Juan Guaido, ni lui, finalement, ne sont légitimes. Aujourd'hui, en tant que dirigeant du Venezuela, aucun des deux n'est légitime. Maduro, l'élection qui lui a permis d'être là, elle est totalement illégitime, vu le nombre d'opposants en prison, vu la répression, vu les morts, vu les pressions qu'il peut mettre sur ses opposants politiques. Et l'autre, il n'a pas été élu pour ça. Donc il n'y a aucune légitimité. Et c'est assez décevant de voir des pays se prononcer sur un soutien à l'un ou à l'autre, d'ailleurs.
Bah, tu sais, les soutiens de Maduro, tu sais qui c'est, hein ? C'est la Russie, la Chine, la Turquie, la Corée du Nord ou Cuba. Pardon ? Oui.
Ben, donc des pays, des dictatures ou des pays autoritaires,
la Russie, c'est représentatif, disons.
Voilà, tout à fait. Mais de l'autre côté, on a Trump qui jette dessus et qui soutient l'autre. Du coup, face à un autoritaire de droite et un autoritaire, la Russie c'est de droite aussi, mais bon, bref, voilà, c'est compliqué. Et je trouve que le communiqué de l'Union européenne est assez pourri. Ils auraient pu défendre la démocratie et dire qu'aucun des deux candidats n'est aujourd'hui légitime. Il faut recommencer les élections. Alors bien sûr, dans le communiqué de l'Union européenne, il y a l'idée qu'il faut relancer des élections, un processus électoral au Venezuela. Enfin, voilà. Par contre, en même temps, Maduro remonte son image d'autoritaire. Il y a eu deux journalistes de l'émission Quotidien qui ont été arrêtés, donc là, au Venezuela.
Quotidien, donc une émission de télé de TMC.
Voilà, je savais même pas que c'était sur TMC. Bah, tu vois.
Autant avoir l'info jusqu'au bout.
Voilà. Donc là, officiellement, le gouvernement français a demandé la libération des journalistes. Reporters sans frontières a aussi demandé la libération des journalistes. L'Union européenne a aussi demandé la libération des deux journalistes et de tous les autres.
Oui, parce qu'il y a des Espagnols.
Alors, il y a les trois fameux journalistes de l'agence espagnole EFE qui sont en tôle. Donc, c'est un reporter espagnol, une vidéaste colombienne et un photographe colombien. Et leur chauffeur, parce que tant qu'à faire. Et puis, il y a des Chiliens en prison. Enfin, voilà, des journalistes, il y en a plein. C'est un exemple pour démontrer que Maduro est tout sauf démocrate, tout sauf progressiste, et tout sauf... Enfin, c'est vraiment un autoritaire à l'ancienne. Donc, c'est intéressant, la mobilisation pour défendre la presse. Et on comprend aussi pourquoi, finalement, en France, Maduro est défendu par la France insoumise qui déteste les journalistes. Du coup, il y a la boucle est bouclée un peu quelque part. En tout cas, la conclusion, c'est qu'aucun des deux n'est légitime et qu'il faudrait faire pression pour qu'il y ait une vraie démocratie, qu'on vire les militaires qui sont beaucoup, beaucoup trop proches, beaucoup trop incrustés dans le pouvoir au Venezuela, pour que le pays se développe un petit peu plus égalitairement, ce qui n'est pas gagné, puisque le représentant de droite, c'est pas quelqu'un partisan d'une égalité, c'est un capitaliste.
Oui, en une dizaine de jours, on pourrait rajouter qu'il y a eu une quarantaine de morts, 850 arrestations au moins. C'est des chiffres quand même assez glaçants.
Tout à fait. C'est à toi.
Ah mince, alors oui, c'est juste, alors ça va être très très bref, c'est juste pour vous raconter à quel point ce Brexit pose des soucis. Vous savez, il y a le problème de l'Irlande. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'Irlande et de l'Irlande du Nord ? Ben oui, mais j'avais pas fini ma phrase.
Moi j'ai une solution, depuis longtemps. L'Angleterre arrête de coloniser l'Irlande du Nord, on réunifie truc et c'est gagné.
Sauf que toi tu vis ici dans cette belle ville de Lyon.
C'est plus facile de loin, tu veux dire ?
Et oui, c'est plus facile de loin. En tout cas, il y en a qui avaient envie sur place de montrer ce qui pourrait se passer si jamais il y avait de retour une frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Alors il faut savoir que l'Irlande du Nord, c'est quand même plus de 30% des exportations qui vont en Irlande. Donc ça veut dire que si jamais il y a de retour une frontière, eh ben, l'économie, elle sera plus pareille et le commerce, il sera plus pareil. Hein, c'est ce que les gens disent. Donc, mais il y a le problème de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette Irlande du Nord, puisque je vous rappelle qu'il y avait des accords qui avaient été signés au mois de novembre, qui disaient que ça pourrait être un espace qui resterait dans l'Union européenne, l'Irlande du Nord, pour faciliter quand même des négociations pour la suite, sauf qu'aujourd'hui le Parlement britannique a dit qu'il ne voulait pas que l'Irlande du Nord soit un territoire spécifique.
Mais non, parce qu'ils vont le perdre si jamais.
Ils le perdront déjà, ah oui. Et puis en plus de ça, ça bloquait tous les autres accords internationaux au niveau du commerce, puisque l'Irlande du Nord étant une zone de l'Union Européenne, bah, ça voulait dire que des marchandises pouvaient rentrer... par là, mais devait en même temps respecter les accords de l'Union européenne, ce que, qui ne pouvait donc pas rentrer des marchandises avec un autre traité international au niveau du commerce. Et puis qu'en plus de ça, l'Irlande du Nord bah, se devait de mettre en place les règles de l'Union européenne. Donc c'était pas simple quand même.
C'est inextricable la situation.
À gérer.
En fait, ouais. Il faut remettre. Alors s'il y a un Brexit, il faut remettre une frontière. Il n'y a pas d'autre solution, du coup ils sont coincés. Ils ont essayé de négocier un entre-deux qui n'a pas été accepté et effectivement la situation est compliquée.
Et puis je vous rappelle qu'il y a une trêve dans ce conflit irlandais qui a permis d'arrêter quand même les morts et les blessés.
Ça fait très longtemps.
D'ailleurs. Ça fait un moment, mais c'est, ça tient encore hein, là quand même sur les années 90. C'est 98 hein, quand même qu'il y a eu le dernier accord.
Ça fait 20 ans.
Et oui, mais il est encore là, il est encore dans les esprits. Il y a encore des générations qui sont quand même marquées par ce qui s'est passé avant 98. Et il y a des manifestants anti-Brexit qui sont allés monter un faux barrage qui s'est habillé en militaire pour remettre en fait dans les esprits aux plus jeunes ce que c'était d'avoir deux Irlandes qui se font la guerre, qui se foutent dessus et qui n'ont pas d'accord de paix.
Il n'y avait pas la guerre avec l'Irlande du Sud, c'est juste que...
Non, mais c'était difficile. C'était de dire que quand même, il y avait des milices. Qu'il y a quand même des groupes communautaires qui se sont affrontés, c'est ça. Et donc, ils se sont amusés. Mais ils ont remis un poste frontière après. Donc, ils ont remis... Donc, ils avaient monté, en fait, un mur avec comme une frontière, puis ils s'étaient postés dedans. Donc, c'était un jeu. C'était pour dire, voilà ce qui nous attend. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se mobilise tous ensemble ou pas ? En fait, c'était ça l'idée. C'était qu'il y ait simplement une mobilisation et une réaction plus importante sur place pour montrer aussi ce qui pourrait se passer. Donc, c'était assez marrant en fait de voir les images. Il y a eu donc après un rassemblement qui a été organisé. Donc après, ils se sont amusés à détruire le mur à coup de masse. Là aussi, c'était très symbolique. C'était aussi l'idée de cassons la frontière, cassons les murs, parce que bah, il y a aussi cette idée-là que un mur, une frontière. En fait, on est quand même nombreux finalement dans le monde à pas trop en vouloir.
Ouais.
Voilà, c'était très court.
Ah, c'était ça ?
Voilà, juste ça. D'accord. J'ai rien d'autre à en dire. Mais non, mais de toute façon, le Brexit, on n'a rien d'autre à en dire. Il n'y a rien qui s'améliore chaque semaine. Tout empire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ?
Nous, n'étant pas décisionnaires, parce que ça ne nous concerne pas, nous ne sommes pas à la place des Anglais pour choisir la manière dont ils veulent vivre.
Et le référendum, un deuxième référendum, ça me très très mal barré, parce que, a priori... c'est très très compliqué parce que pour l'instant les gens qui sont en poste au niveau des élus ils sont très peu favorables à l'idée d'un deuxième référendum et que voilà et puis qu'après en plus les processus sont compliqués au-delà de ça.
Eh ben on va aller dans un autre pays de murs puisqu'il y a beaucoup de pays avec des
et
murs.
Oui, c'était un peu la logique du lien tu vois.
Cette horreur que représentent les frontières et les murs et on va aller en Israël et on va faire un petit focus sur une ville dont on a déjà pas mal parlé, une catastrophe pour les habitants et les habitantes, qui s'appelle Hébron. Donc Hébron, c'est pour résumer, 200 000 habitants palestiniens, bon, peut-être 600 colons au grand maximum, et des dizaines de milliers de militaires pour s'occuper des colons qui bouffent la vie, détruisent la vie des Palestiniens, des Palestiniennes qui habitent Hébron. Une situation très compliquée. Essentiellement au centre-ville d'ailleurs, hein, parce que quand on s'éloigne un petit peu du centre-ville, la situation est moins compliquée. Tout ça parce que c'est une question de religion, puisqu'il y a un temple au milieu de cette ville qui est quelque chose de sacré pour les juifs, qui est aussi quelque chose de sacré pour les musulmans. Du coup, ça s'est partagé en deux, enfin, la situation est très compliquée. On notera quand même que la situation s'est jamais améliorée, mais que personne n'a non plus cherché à améliorer les choses, notamment l'ONU n'a jamais osé envoyer des casques bleus pour essayer de résoudre la situation. Quand on est là-bas, vous êtes mis en joue quand vous êtes du côté palestinien par les soldats israéliens, il y a des checkpoints au milieu des rues dans le centre-ville, enfin, c'est une situation qui est vraiment catastrophique. Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé lundi qu'Israël mettait fin au mandat d'une mission internationale d'observateurs basée dans cette belle ville de Hébron. Cette mission s'appelle la TIPH, traduit en français « Présence internationale temporaire ». C'est une mission d'observateurs qui est déployée à Hébron. C'est issu d'un accord de 1994, donc un accord entre Israël et la Palestine. On rappelle qu'en 1994, au mois de février, un Israélien est allé assassiner 29 Palestiniens qui priaient dans cette fameuse mosquée que les Juifs appellent le caveau des patriarches. Donc voilà. Suite à ce massacre par un Juif israélien, il y a eu une mission internationale qui a été négociée et que le gouvernement israélien a été obligé d'accepter à l'époque. Cette mission est là pour observer et dénoncer notamment les exactions aussi bien israéliennes que palestiniennes. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, il dénonçait essentiellement ce qui se passe réellement, c'est-à-dire les exactions de l'armée israélienne, puisque les pauvres Palestiniens, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Alors tout ça énervait le gouvernement israélien depuis des années, et il y a un rapport qui est sorti au début du mois de la police, qui dit que ça suffit, les membres de ce TIPH perturbent le travail des soldats, embêtent régulièrement les troupes israéliennes et sont parti pris du côté des Palestiniens, grosso modo. Il y a le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Erdan, qui a, suite à ce rapport, mis la pression sur Benjamin Netanyahou pour qu'il arrête cette mission qui est renouvelée tous les 6 mois. Et voilà, cette mission s'arrête aujourd'hui, le 31 janvier. Et lundi, donc, quelques jours avant, Benjamin Netanyahou a annoncé que stop, c'est fini, il n'y aurait plus de mission. Voilà. Alors c'est triste parce que c'était une mission, même si c'est symbolique, elle était là officiellement pour essayer de rapporter ce qui se passe au jour le jour. Israël est allé encore plus loin parce qu'il y a des plaintes de la part du gouvernement, enfin de l'État d'Israël, contre certains membres de cette mission parce qu'ils auraient été partiales. En fait, si vous n'êtes jamais allé là-bas, que vous n'avez pas d'idée de ce qui se passe, vous y allez et en 5 minutes, vous avez basculé dans le camp des Palestiniens. C'est tellement invivable la situation, vous êtes tellement humilié par l'armée israélienne que c'est impossible de pas basculer, de pas tout de suite prendre parti, de comprendre qui humilie l'autre, qui exploite l'autre, qui colonise l'autre. Et donc, du coup, le comportement des membres de cette mission est assez normal de tout être humain en fait, qui vit cette situation-là. Alors, en réaction, des responsables palestiniens et européens aussi ont exprimé leur inquiétude, et notamment des membres de l'autorité palestinienne se sont dit inquiets de cette suppression et ont demandé, l'autorité palestinienne, qu'il y ait une intervention de l'ONU avec, ils n'ont pas appelé ça des casques bleus, mais effectivement quelque chose d'officiel de la part de l'ONU. C'est ce que réclament des militants sur place depuis très très longtemps, qu'il y ait une force d'intervention internationale qui vienne aider les Palestiniens contre l'occupant israélien. Bon, il n'y a aucune chance que ça aboutisse, malheureusement. Et finalement, cette décision horrible fait boule de neige, puisque dans cette foulée du discours de Benjamin Netanyahou, il y a le Conseil œcuménique des Églises, c'est une organisation importante qui représente 500 millions de chrétiens, qui avait des militants aussi, qui venaient aider les Palestiniens et constater ce qui se passait, des accompagnants comme ils disent, ont décidé d'arrêter. Alors c'est un programme qui a fait venir 1800 activistes chrétiens depuis 2002, à l'image un peu des campagnes internationales civiles, cette fois-ci pour aider les Palestiniens. Là c'était juste sur Hébron. Eux aussi, grosso modo, il y avait 25 à 30 personnes par mois qui venaient, qui restaient un mois, et qui étaient là pour aider les Palestiniens, et de par leur présence, essayer d'empêcher les exactions des militaires israéliens. Ils ont décidé d'arrêter parce qu'ils estiment effectivement que la sécurité est plus assurée pour les membres de leur conseil œcuménique des églises, que c'est comme ça que ça s'appelle. Ce conseil œcuménique des églises, alors c'est les protestants, il n'y a pas les catholiques dedans par exemple. Hein. Il y a d'autres groupes catholiques d'ailleurs qui militent et qui sont à Hébron, mais là c'est les autres églises. Ils s'étaient déjà fait taper dessus par le gouvernement israélien parce qu'ils soutenaient la campagne BDS, boycott des investissements et sanctions. Donc voilà, tout le monde se carapate un peu et on a l'impression que les Palestiniens sont laissés tout seuls au milieu d'une armée suréquipée et ô combien agressive. Et puis toujours en lien avec la situation israélo-palestinienne, il y a eu pas mal d'appels au boycott de l'Eurovision, hein, qui aura lieu en Israël, qui a lieu en Israël pour une raison simple, hein, c'est parce que la dernière gagnante du concours de l'Eurovision est une Israélienne. Donc c'est normal que quand on gagne, en fait, l'année d'après, ça se passe dans le pays du gagnant. Ce que j'ai compris ce prix qui n'est pas toujours très performant au niveau qualité musicale.
Et puis ça reste un grand show de la télé, point. Ouais. Quoi. Voilà.
Et des personnalités britanniques, des gens célèbres, hein, Peter Gabriel, ancien chanteur de Genesis, Ken Loach, Vivienne Westwood, une styliste connue, entre autres, et puis plein d'autres gens avaient demandé à la BBC de boycotter la retransmission, de ne pas retransmettre l'Eurovision au nom de l'attitude inadmissible d'Israël, qui occupe, on rappelle, une grande partie de la Cisjordanie et tout Jérusalem-Est. Il y a une réponse de la BBC qui dit il n'y a aucune raison de faire ça, puisque l'Eurovision, ce n'est pas un événement politique. Donc, il n'y a pas de raison de boycotter pour des raisons politiques. Alors, c'est un peu triste, parce que la BBC aurait pu répondre un truc plus intelligent, un entre-deux, un petit peu, en disant on a une obligation, effectivement, on ne soutient pas, on fait un message avant de diffuser le programme, on passe un documentaire sur Hébron avant de diffuser le programme. Ben, ils auraient pu être un peu ouverts. Là, ils ont fermé la porte un petit peu sauvagement à ces gens qui demandaient le boycott. Voilà, la discussion reste importante et il n'y a pas de solution qui marche avec ce genre de pays. Le boycott ne marche pas forcément et le non-boycott, ce n'est pas forcément la bonne solution non plus. Voilà, après, c'est une collaboration. On sait que les appels au boycott permettent de changer des choses, hein, quand même en Israël, puisque à force de mettre de pression sur Booking, sur Airbnb, sur des gens comme ça, qui louent ou permettent de louer des appartements, des chambres ou je ne sais quoi dans les territoires occupés, Airbnb a reculé et a dit qu'il ne mettrait plus en place, il ne soutiendrait plus la colonisation, parce que c'est ce qu'il faisait. Voilà. Donc ça peut servir. Là, malheureusement, la BBC, et c'était prévisible, n'est pas allée dans le sens des militants qui défendent la cause palestinienne.
Alors je vais très très rapide parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à en dire à part vous raconter ça. C'est passé dimanche, on est en Pologne, on est à Auschwitz, vous savez ce camp d'extermination ?
Ouais, qui est un double camp, concentration oui. Et extermination.
Effectivement.
C'est peut-être le seul d'ailleurs.
C'est un lieu mémoriel, oui. Important pour l'humanité. Enfin, en tout cas, moi j'en suis absolument persuadée. Dimanche, il y avait la cérémonie annuelle, c'est-à-dire que ça a lieu donc tous les ans, vous auriez bien compris, qui marquait le 74e anniversaire de la libération du camp.
Oui, et du coup, c'est les commémorations de la Shoah en ce moment aussi un peu partout.
Et qui y avait donc par là-bas ? Eh ben, il y avait les Polonais nationalistes, racistes et antisémites qui avaient décidé de marquer le coup en faisant une petite manifestation juste à côté. C'était organisé par le mouvement de l'indépendance polonaise. Déjà, c'est tout un poème. Et les propos de Piotr Rybak ont été rapportés par l'AFP. Et il a expliqué « La nation juive et Israël font tout pour modifier l'histoire de la nation polonaise ». On rappellera que pendant cette période, 3 millions de juifs polonais sont morts. Voilà, pour une partie.
Avec l'aide de l'État polonais.
Voilà.
Et des Polonais.
On rappellera par ailleurs qu'aujourd'hui, on a un gouvernement polonais qui tente à dire que l'implication des fonctionnaires polonais de l'époque n'était peut-être pas si importante.
Ce qu'on note, ce qu'on sait de l'histoire, hein, que les résistants polonais, ils ont existé, ils étaient quand même pas très nombreux et loin d'être majoritaires dans le pays. Donc majoritairement, c'était plutôt un soutien à Hitler au Troisième Reich. Hein. Donc ils peuvent tenter de réécrire l'histoire, c'est quand même relativement triste. Et c'est pas le seul endroit où ça a cartonné comme ça.
Ouais.
Puisqu'en Allemagne, c'est la première fois que ça arrive depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, lors des commémorations, je sais plus quel parlement régional, un groupe politique est parti et a refusé de participer aux commémorations. Un groupe politique, bien évidemment, d'extrême droite. Et la peste brune est en train de monter partout.
Partout.
Et une peste brune qu'on aurait pu croire intelligente, c'est-à-dire avoir d'autres ennemis, avoir un discours un peu différent. Et non, en fait, l'antisémitisme, il est toujours ancré dans ces groupes de fachos. Et voilà, c'est partout. Et l'Allemagne, qui était protégée, parce que les lois ont quand même bien bloqué l'arrivée de ces groupes d'extrême droite, là c'est fini. En Allemagne, maintenant, avec l'AFD, avec des gens comme ça, la peste brune s'installe tranquillement dans les parlements régionaux et nationaux en Allemagne.
Alors, je disais 3 millions de juifs polonais qui sont morts. Faudrait rappeler donc à ces patriotes polonais, comme ils s'appellent eux-mêmes, qu'une partie sont morts, la moitié à peu près, effectivement, exterminés au camp, ou morts de faim. Au camp.
Oui, ou de maladie, parce que
voilà.
De mauvais
traitements. Mais l'autre moitié, elle est morte assassinée dans la rue, enfin plein d'autres endroits. Mmh. Hein, c'est-à-dire que c'est pas que les nazis au camp qui ont assassiné ces juifs polonais, mais c'est bien d'autres polonais qui ont assassiné leurs concitoyens.
Voilà. Et il n'y avait pas que des juifs polonais.
Enfin, non, dans ce camp, non. C'est la mondialisation dans l'horreur, tu sais.
Je crois que c'est Hitler qui l'a inventé.
Ils ont bien porté ça, quoi.
Ouais. Voilà. On va parler d'énergie et environnement, je crois.
Ouais, on va essayer d'alléger un peu le truc là.
Ouais, parce que
là, j'étais un peu plombant, mais excusez-moi, mais voilà, c'est quand même. Voilà. Moi, je trouve ça choquant, quoi.
Ouais, c'est atroce. Énergie et environnement. Alors, une bonne nouvelle. Alors, c'est deux espèces de think tanks. Qui sont spécialisés dans l'écologie.
Des think tanks.
Il doit y avoir un terme français, mais que je n'ai pas en tête. Je vais appeler ça un think tank, spécialiste de l'écologie, qui font le bilan chaque année de la production d'énergie électrique en Europe. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque d'après eux, ils reprennent les chiffres de tous les États, ils n'inventent rien. La production d'énergie solaire, d'électricité à partir d'énergie solaire, d'éolienne et de biomasse, dans l'ensemble de l'Europe, a supplanté le charbon l'année dernière. Pas mal, hein ? On dit toujours que qu'il y a encore beaucoup de charbon. Alors effectivement, l'Allemagne en a encore un petit peu, la Pologne beaucoup, mais au global sur l'Europe, ça progresse beaucoup. Et alors quand on voit les chiffres sur les énergies renouvelables, on est l'année dernière à 32,3% d'électricité d'origine renouvelable. C'est le double de la France à peu près. En Europe, ça veut dire qu'il y a des pays qui sont bien meilleurs que nous. Alors, on rappelle, le Portugal, sur un mois de l'année dernière, ils ont fait 103%. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Le charbon chute en un an de 6%. Et si on compare à 2012, on est à 30% de baisse du charbon. Il y a la légende urbaine que l'Allemagne pollue beaucoup avec son charbon. En fait, c'est pas si vrai que ça sur l'ensemble de l'Europe. Et puis, l'Allemagne sort du charbon. On le rappelle, bon, certes, ils vont mettre 20 ans. Ils ont mis 20 ans à sortir du nucléaire. Ils vont mettre 20 ans à sortir du charbon. Et au bout de ces 40 ans, ils seront 100% renouvelables. Alors que la France sera encore toujours à 17% renouvelables. Hein, ou à 30% si tout va bien. Donc voilà, il y a pas mal de chiffres comme ça qui sont donnés, ça va plutôt dans le bon sens, c'est pas détaillé pays par pays, parce que sinon, effectivement, la France serait ridicule, mais au global sur l'Europe, le renouvelable se développe beaucoup sur l'électricité. Alors, toujours sur l'électricité, oui.
Si je peux me permettre de proposer une traduction pour think tank, si tu veux bien.
Oui.
Alors, on pourrait parler de groupe de réflexion, mais on a plutôt une tendance en général à parler de laboratoire d'idées.
Oh putain, laboratoire d'idées.
Ben ouais, parce que ça sous-entend davantage peut-être... le lobbying qui va pouvoir sortir de ce laboratoire d'idées.
Oui, voilà. Parce que là, oui, tout à fait. Là, c'est un lobbying.
Mais sinon, effectivement, on pouvait employer les deux groupes de réflexion au laboratoire d'idées.
Merci pour la traduction.
Je t'en prie.
On va parler de la réunion. Non pas le truc que vous faites au bureau avec votre patron ou avec vos autres collègues, mais l'île de la Réunion.
Et on fait des réunions entre militants aussi. Regarde la radio qui on fait des réunions aussi.
Donc on va parler de l'île de la Réunion. L'île de la Réunion qui... a du soleil, a du vent, a de l'eau, de la houle marine, de la géothermie, de la biomasse, a tout ce qu'il faut pour être 100% renouvelables en niveau d'énergie et notamment de l'énergie électrique. Bon, malheureusement, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, les renouvelables, c'est 36% du mix énergétique de la Réunion, avec 20% d'hydraulique, qui est largement en tête, quoi. 20% sur le global. Et il reste une catastrophe environnementale qui s'appelle 36% de charbon et 28% de fioul. Ça veut dire qu'à l'île de la Réunion, dans un département français, on est à plus de 60% d'hydrocarbures pour faire de l'électricité. Alors vous pouvez critiquer l'Allemagne avec leurs 40% de charbon, la France fait largement pire à l'île de la Réunion. Mais, il y a pas mal de projets qui se développent, et notamment un projet qui s'appelle Albioma, et c'est un projet capitaliste, c'est en fait le propriétaire de deux grosses centrales à charbon du pays, qui fournit 54% d'électricité quand même, et qui a décidé de basculer petit à petit sur la biomasse. Donc là, on se dit, c'est cool, hein, notamment pour l'instant, ils le font, ils sont à, je sais pas à combien de pourcents de biomasse, mais ils y arrivent, c'est essentiellement issu de la canne à sucre, des déchets agricoles qu'on brûle. On se dit, waouh, c'est super, ils vont dans le bon sens. Le problème, c'est que ce qu'ils ont prévu, c'est de basculer la centrale d'ici 2023, les deux centrales, de charbon à 100% biomasse. On se dit, c'est super bien. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de biomasse sur l'île. Donc ils vont être obligés d'importer 70% de la biomasse qui va venir du Mozambique, d'Afrique du Sud. On a du coup un projet qui a l'air vert au départ et qui devient une pollution, une source de pollution. On va aller chercher soi-disant des déchets, mais il y a des chances qu'on bousille la forêt, la forêt d'ailleurs. Alors certes, la forêt de l'île de la Réunion va fournir aussi son quota de biomasse, mais on va pas couper des arbres, on va couper les feuilles, les branches, et gérer la forêt un peu intelligemment. Mais 70% va être importé. À partir du moment où la biomasse, quand on a une centrale en biomasse, elle n'est pas issue de la région elle-même, et il y a une partie qui est importée, c'est que le projet n'est pas écolo. Donc le vernis vert, il est en train de craquer. Alors que, vu ce que j'ai dit au début, le potentiel de vent, de soleil, de houle marine, il y a la mer partout, il y a de la géothermie, enfin il y a un potentiel énorme. Et finalement, on cherche des solutions qui ne sont pas toujours les bonnes. La biomasse, elle peut être utile, mais pas à telle ampleur. En tout cas, voilà. Alors, il y a aussi des projets dans d'autres domaines qui se développent. Mais là, c'était pour montrer un contre-exemple, un peu comme ce qui se passe dans une centrale thermique en France, du sud de la France, où on importe, où on va importer du bois pour faire de l'électricité. Voilà. La petite alerte de Greenpeace aujourd'hui, c'est sur les déchets. Alors c'est sorti hier, mais j'ai eu l'info qu'aujourd'hui, moi. Ils font le gros rapport, ils en font un régulièrement, sur l'état des déchets nucléaires présents dans le monde. Donc celui-là, il s'appelle la crise mondiale des déchets nucléaires. Donc ils n'ont pas fait sur l'ensemble des pays, parce que la situation est impossible à analyser dans les pays autoritaires ou dans les pays fermés, comme la Russie ou des choses comme ça. Donc ils ont étudié 7 pays très nucléarisés, hein, la Belgique, la France, le Japon, la Suède, la Finlande, la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique. Et la conclusion, c'est que c'est une catastrophe. Bon, ça on le savait déjà, puisque c'est le titre du rapport. Ça s'appelle la crise mondiale des déchets. Grosso modo, le rapport explique, et notamment c'est le cas de la France, on fabrique tous les jours des déchets nucléaires, de plus en plus, et le retraitement du combustible crée encore plus de déchets. Ben oui, une fois qu'on a retraité, il y a un seul % des 1200 tonnes de combustible irradié qui sortent des centrales chaque année qui sont réutilisées. Et en fait, il rappelle que le retraitement n'est pas un retraitement mais une séparation des déchets. Ça engendre beaucoup plus de déchets qu'il y en avait au départ par la séparation, etc. En volume et en poids, et en volume surtout. Voilà. Alors ils expliquent un petit peu tout. Sur la crise de l'uranium, c'est une crise des déchets qui date du début, c'est-à-dire de l'extraction, donc du début du cycle et du début de l'histoire, donc dans les années 50-60, et du début du cycle, c'est-à-dire de l'extraction. Grosso modo, il y a aujourd'hui 2,4 milliards de tonnes de déchets disponibles radioactifs dans le monde, ce qui est énorme. Et ils attaquent aussi la politique de la France notamment la politique qui est mise en place à CIGEO, ça s'appelle CIGEO, c'est le projet CIGEO à Bure, de mettre les déchets sous terre. Avec les conséquences qu'on peut connaître, puisqu'il y a donc c'est Orano, le leader français du nucléaire, donc le nom est tout nouveau, hein, mais qu'avant c'était Framatome, ou Areva après, a décidé d'enfuir les déchets. Alors que dans d'autres pays, ils font pas ça. Dans des pays, ils font ce qu'on appelle de l'entreposage à sec et en extérieur. C'est-à-dire, on laisse les déchets dans des bâtiments accessibles pour qu'on puisse s'en occuper, puisqu'il faut s'en occuper pendant 100 000 ans minimum, hein, voire plus. Donc voilà, le rapport tape un peu sur EDF, sur Orano, et rappelle toutes les problématiques liées aux déchets et les mauvaises solutions que la France a décidé de mettre en œuvre. Je ne sais pas si ça servira bien à quelque chose, parce que c'est juste un rapport de plus, comme il en sort un tous les ans. Mais il suffisait de le redire. Et puis, dans la série je fais ailleurs les choses que j'aurais dû faire ici. On va prendre EDF, Électricité de France, donc qui est encore en partie publique, qui en France installe assez peu d'énergie renouvelable. Hein, on est toujours, le pays est toujours très à la traîne. Mais par contre, à l'étranger, ils ne travaillent pas du tout comme ça. À l'étranger, notamment c'est en Amérique du Nord, là, ils installent une énorme centrale nucléaire sur 400 hectares, une centrale solaire, je veux dire, sur 400 hectares, qui va alimenter 39 000 foyers à l'énergie solaire, et ils vont augmenter leur capacité renouvelable à l'étranger, alors qu'en France, que dalle, ils préfèrent construire des EPR. Alors qu'ils ne construisent pas d'EPR aux États-Unis d'Amérique. Vous me direz, c'est pas totalement eux qui choisissent. Mais voilà, c'est juste pour dire que EDF a toujours un double jeu, un double discours, un double travail. Ici, avec la protection des élus français, des ingénieurs issus de ces fameuses grandes écoles qui sont nucléophiles, on a une politique quasi tout nucléaire, alors qu'ailleurs, le nucléaire n'ayant pas la cote, EDF a des projets qui sont à 2000 lieues du nucléaire. C'est juste une entreprise hypocrite, capitaliste hypocrite. Mais bon, ça vous le saviez déjà. Voilà. Alors, c'est la fin de cette émission, il est 20h02. Nous avons utilisé 0% d'énergie nucléaire pour faire cette émission. C'est plutôt pas mal, hein, puisque nous avons quitté EDF il y a de nombreuses années, nous, en tant qu'association Radio Canu. Tu voulais peut-être terminer par quelque chose ?
Ouais, un truc drôle. Je peux juste. C'est juste pour à la fois parler d'un sujet rapidement, mais ça va être très rapide, et en même temps faire une critique de médias. Vous savez que peut-être que le Parisien a fait un papier sur 24 produits de grande consommation qui vont augmenter demain, vendredi 1er février. Tout ça est dû à la loi alimentation et une entrée en vigueur d'un décret qui augmente le seuil de revente à perte à 10%, c'est-à-dire que l'idée de cette loi alimentation, c'était que les agriculteurs arrêtent de vendre à perte, puisqu'ils sont les seuls en France à avoir... C'était pour que les agriculteurs vivent mieux et que la grande distribution arrête
de vendre à perte.
Voilà. Et que vous savez, il y a eu des affaires là où ils vendaient des pots de Nutella,
à 12 euros.
Donc, dans les 24 produits de grande consommation cités par le Parisien, on s'aperçoit qu'il y a des produits qui ne sont pas des produits de nécessité. Hein. Quand on parle de Danette, de Coca-Cola, de Caprice Zélie ou de Nutella... Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va pouvoir se passer demain.
Moi, j'ai noté que dans tous les produits cités par le Parisien, je n'en consomme aucun.
Alors, si.
Tu veux dire.
Voilà.
Non, j'achète plus de Ricard. J'ai changé de marque.
Mais on ne va pas le dire à l'antenne, puisque je vous rappelle que boire est mauvais pour la santé, que vous devez réduire votre consommation d'alcool.
Ah bon ? T'es sûr ?
Oui, je suis absolument sûre. Tu vas arrêter de couper mes obligations légales.
On a eu un commentaire parce que je te coupe un peu trop, tout ça.
Non, c'est. Voilà. Alors, après, on va avoir le CSA, tout ça sur le dos. Enfin bon. Donc voilà, vous ne buvez pas quand vous conduisez, tout ça.
Bon,
enfin,
vas-y, arrête avec ton
là. Après, ils vont croire qu'en plus, je le fais exprès, quoi. Oui. Donc, ce qui était marrant, c'est que donc sur France Info TV, il y a eu un article qui est paru et le titre était Chocapic, Nutella ou Camembert Président. On vous explique pourquoi certains prix risquent d'augmenter dans les supermarchés le 1er février. Donc, article écrit par Guillaume Gaven. Vous aurez compris, Chocapic, Nutella ou Camembert Président. Et puis sur Lyon Capital, c'est Justin Bosch, qui est là depuis longtemps, hein, Lyon Cap, qui nous a fait un papier. Et lui, il dit pastis camembert soda, ce qui va augmenter le 1er février. C'est-à-dire que moi, vous voyez, les journalistes, c'est pas neutre. C'est une manière de présenter. C'est pas juste qu'ils citent les marques, c'est qu'il y en a un, il boit. Il bouffe du fromage et il mange du soda. Enfin, il boit aussi du soda. Tandis que l'autre, il nous prend des choses plus grandes familles. Tu vois, c'est-à-dire qu'on sent qu'il n'y a pas la même interpellation sur ces 24 produits. Moi, je pense qu'ils ne se sont pas sentis concernés de la même manière, Guillaume Gaven et Justin Bosch.
Ouais, moi, j'ai trouvé un fond de racisme dans l'article de l'Humanité que j'ai lu, où il disait, en fait, il y a plein de produits qui sont fabriqués à l'étranger, donc ça va augmenter les revenus donc indirectement des producteurs peut-être qui vendent à ces entreprises, et que ce n'est pas des Français, alors que c'est la loi pour protéger les paysans français. J'ai trouvé ça ridicule. On n'est pas nationaliste, les gars, c'est de la lutte de classe, et c'est des gens qui sont exploités et qui vendent leurs produits malheureusement pas cher à des multinationales. Et si c'est des multinationales, que ce soit des paysans belges, espagnols, turcs ou français, on aimerait tous qu'ils soient bien payés, et on ne mettait pas du nationalisme là, on n'a pas envie d'en voir. Merci monsieur l'Humanité qui va très mal, mais bon. Moi, je m'en fous.
Enfin bon, juste pour dire que, de toute façon, rappelons que cette note augmentation, elle va être aussi due au fait que certains produits étaient vendus très bas, parce que, enfin très bas, au prix plancher, par exemple comme le Nutella, parce que là, l'agriculteur, il s'en fout un peu.
Il y a les noisettes.
Ouais, enfin bon, pff, voilà.
Pas d'ici,
mais c'est surtout que, en fait, c'était un prix d'appel et que c'est du faux prix pour pouvoir attirer le chaland. Et à côté de ça, ça permet de vous vendre d'autres produits plus chers, dont en particulier les pommes. Ils sont vendus beaucoup plus cher, alors que l'agriculteur, lui, il en profitait pas parce qu'on lui achetait très très bas ses produits. Donc là, l'idée, c'est peut-être aussi un peu d'avoir des prix qui soient ajustés, qu'on arrête de nous vendre à n'importe quoi, à n'importe quel prix.
Cette loi qui allait dans le bon sens, elle est pas bien faite du
tout.
Non,
pas du tout.
Il aurait fallu faire comme, enfin voilà, quand Apple y vend un téléphone, il n'a pas le droit de le vendre à perte. Il y a le coût de fabrication. Ouais. Les agriculteurs ont le droit de vendre à perte. Ça, c'est inadmissible. On ne devrait pas avoir le droit de vendre à perte. Les distributeurs devraient pas avoir le droit d'acheter moins cher que le coût de revient. Et par contre, la question pourrait se poser sur l'absence de TVA, par exemple, sur les produits de première nécessité, dont ne font partie aucun des produits cités par les articles de tes journaux. Là. Aucun. Je veux dire, les pâtes, c'est un produit de première nécessité, les légumes, les fruits, c'est un produit de première nécessité, le pastis, la crème, la pâte à tartiner capitaliste ou je ne sais quoi, ne font pas partie des produits de première nécessité. On peut très bien vivre sans. Et c'est pas un truc fondamental, on s'en fout.
Il y a eu beaucoup de bruit sur des produits de marque, des produits d'appel, et le fond du débat, il est pas là. Il est comment aujourd'hui la grande distribution se marge sur le dos des consommateurs et des consommatrices, et sur le dos des producteurs et agricoles, mais aussi des producteurs des petites usines et des petites PME qui aujourd'hui fournissent aussi un certain nombre de produits, dont se vante Carrefour par exemple en disant le terroir. Vous savez, il y a une marque là, le machin de mon terroir, qui disent que les produits viennent juste d'à côté de votre magasin Carrefour. Bon, globalement, le gars qui vend son fromage, c'est dur aussi pour lui.
Oui.
Les produits de mon terroir, un truc comme ça. Ouais. C'est pas ça, mais je vais passer à Carrefour, pardon.
En tout cas, ce qu'on pourrait faire, je crois que c'est le mois de février, c'est le mois sans hypermarché. Là, il y a une campagne lancée par des gens qui disent qu'il faut boycotter les hypermarchés pendant un mois.
Alors, le truc, c'est qu'il y a des boycotts de tout. Janvier, c'était il fallait pas boire. C'était le mois sans alcool, je vous rappelle. Ah, c'est raté pour vous, voilà. Février, donc, c'est sans les supermarchés. Je pense qu'il y en a pour vous. Ça va être très difficile. Et ainsi de suite. En fait, il y a des mois de tout.
Ah ouais.
Mais c'est comme il y a des journées de tout. Maintenant, il y a des mois de tout, il y a des semaines de tout. Tu trouveras toujours, toi, ami qui m'écoute, une semaine qui te correspondra et sur laquelle tu as envie de militer aussi. Mais est-ce que c'est vrai que moi, ne pas aller au supermarché, pas de souci. J'irai pas pendant tout le mois de février si j'avais envie de militer sur ces questions-là. Mais en fait, je pense que c'est un vrai combat, en fait, quelque part. Voilà.
Très bien.
Et bien, peut-être au marché ce samedi, alors, ou ce dimanche. Voilà.
Voilà, sur votre marché. Hein. Et à bientôt.
Eh ben oui, on se retrouve la semaine prochaine.
Peut-être.
Ah mince, je viens d'apprendre que donc, je ne serai peut-être pas accompagné par Laurent la semaine prochaine.
Le travail, tout ça, l'exploitation.
Ça tue tout ça. Bon, en tout cas, nous, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine. On vous rappelle qu'il se passe plein de choses sur l'antenne de Radio Canu et qu'il y a toujours quelqu'un à écouter ou de la musique à écouter quand il n'y a pas d'une personne au micro.
Voilà, là, c'est les bandes continues et la prochaine émission en direct devrait arriver à 21h.
Ciao, ciao.
Bye, bye. This is it, it never lasts for long.